بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه لا يوم الدين وبعد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب زدنا علما يا كريم، رب زدنا علما يا كريم، رب زدنا علما يا كريم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هل أتاك حديث الغاشية؟ وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع. وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة. Mes chers frères, nous remercions Allah subhanahu wa ta'ala qui nous donne la possibilité en ce soir de reprendre le programme du tafsir après une interruption due aux vacances scolaires. Et donc, nous remercions Allah qui nous donne la possibilité de reformer bi'idhnillah ces cercles, ces majlis, ces assemblées où notre unique objectif est de parler d'Allah, de parler de la parole d'Allah, le Coran qui est la parole d'Allah, kalamullah, et cette parole qui est éternelle, qui est unique en son genre, qui n'a pas son semblable dans les autres religions, qui n'a pas été, il n'y a pas d'équivalent en termes de révélation comme le Coran. C'est un livre qui a été révélé sur le prophète Muhammad Mustafa sallallahu alayhi wa sallam par l'intermédiaire de l'ange Jibril alayhi salam. Et ce sont là des paroles qui sont protégées par Allah, par la promesse et l'engagement d'Allah subhanahu wa ta'ala jusqu'au Qiyam. Jamais une créature, jamais un homme, jamais un djinn ne pourra imiter le style, imiter la tartib, la manière, l'éloquence du Coran, et jamais une personne ne pourra falsifier les versets ni même changer un mot sans que la totalité des musulmans ne s'en rendent compte et condamnent cet acte. Si moi je prends un verset du Coran et que j'enlève un mot et je garde chez moi, est-ce que ça veut dire que j'ai falsifié le Coran? Je n'ai pas falsifié. J'ai enlevé un mot, j'ai changé un mot, j'ai mis du blanco sur un mot, pour moi. Mais quand on parle de falsification du Coran, c'est changer les termes et que le Coran est modifié et l'humanité hérite, c'est-à-dire les autres générations héritent d'un Coran falsifié. Ça c'est impossible. Même s'il y a eu dans certains pays, on a entendu des personnes qui ont édité une nouvelle version du Coran en enlevant certaines choses, on entend sur internet, on a vu des articles. Est-ce que ça veut dire pour autant qu'ils ont pu falsifier le Coran? Non, parce que je le sais, vous le savez tous. La totalité des musulmans est consciente qu'il y a eu des gens qui ont pris le Coran, qui ont enlevé des versets pour que ce soit plus facile et pour qu'il y ait certains avantages personnels. D'accord, ce ne sont pas les musulmans qui l'ont fait, bien sûr. Mais ça ne veut pas dire que le Coran a été falsifié. Parce que tout le monde le sait. Falsifié, c'est quoi? C'est comme les Masakin, les Yahoud et les Nasara, leurs livres ont été falsifiés et ils ne s'en rendent même pas compte. Ils ne savent même pas qu'il y a des changements, que ce texte n'est pas authentique à celui qui a été révélé à Isa alayhi salam et à Moussa alayhi salam. Ça veut dire falsifié. Donc c'est un ni'mat de la part d'Allah que ce livre, que ces paroles restent intactes et qu'Allah nous a donné la possibilité d'aborder ces paroles et d'essayer de comprendre le sens de ces paroles. Parce que ce Coran n'a pas été révélé que pour être lu, que pour être salmodié, que pour être récité dans les salats, dans les tarawih, et par une voix embellie, par différentes qira'at. Ce sont là des bienfaits, ni'mat de la part d'Allah, d'avoir des gens qui sont capables de lire différentes manières, etc. Ça c'est un ni'mat, c'est également un ibadat d'écouter la lecture du Coran, mais avant tout le Coran a été révélé pour être lu et pour être compris des hommes. Afala yatadabbarun al-Qur'an, méditer sur le sens du Coran. Et comment un musulman peut-il se proclamer attaché à sa religion, ferme, pratiquant, si ce musulman n'a aucune notion de ce que ce livre véhicule en termes de message? Ça, c'est incompréhensible. C'est comme si on a un cardiologue, il prétend pouvoir opérer, il prétend pouvoir déboucher des artères, pouvoir pratiquer des massages cardiaques ou tout ce qui a trait à la cardiologie, mais il ne comprend pas les manuels qui ont été écrits sur cette spécialité, la cardiologie. C'est impossible. Ça veut dire qu'il a vu des... Il a peut-être son père était cardiologue. Peut-être qu'il a grandi avec son papa dans l'hôpital, il a vu comment on réanime, comment on fait telle chose, et donc il sait le faire parfaitement. Mais est-ce qu'on va dire que c'est un cardiologue? Non. Le jour où il y a un problème plus grave, il a toujours vu qu'on fait un massage cardiaque, mais quand il faut faire une opération à cœur ouvert, par exemple, est-ce qu'il saura le faire? Jamais. Il a vu ce que tout le monde faisait. Il a grandi dedans. Il a été éduqué dans ce BSO. Avec cet enseignement, donc, il connaît, il s'est fait un massage cardiaque, fait une réanimation, etc. Il y a des choses de base. C'est comme nous. On est musulmans, on a appris un peu, on a vu les gens pratiquer, donc on pratique. Mais le jour où il y a un problème plus complexe, le jour où une question est soulevée, le jour où il y a un débat précis sur un point de la religion, on entendra mille et une personnes dire que non, il y a pas de le Coran, ça c'est comme si c'est comme ça. Mais si nous ne connaissons pas notre livre avec précision, quelle réponse on peut donner? Qu'est-ce qu'on sait de notre religion si on ne connaît pas ce qu'Allah dit dans le livre, dans son livre révélé? Ça c'est la base. Le Coran et les paroles du prophète alayhi salatu wassalam, c'est la base de la foi, c'est la base de la science religieuse. Et c'est avec ça qu'on avance, c'est avec ça qu'on progresse, et c'est surtout avec ça que la Ummad reste unie. Que la religion que je pratique à La Réunion est identique que celle qui est pratiquée par mes frères aux îles Comores, aux îles Mayotte, à Madagascar, à l'île Maurice, en métropole, en Afrique, en Russie, en Chine, en Amérique, quels que soient les continents, quels que soient les peuples, quelles que soient les langues. C'est une même religion, c'est une même pratique. Et qu'est-ce qui fait que les gens resteront rattachés à cette religion, resteront rattachés à une religion surtout authentique, sans qu'il n'y ait d'innovation, d'apport, de rajout, de suppression? C'est lorsque les musulmans comprendront que la tâche que nous devons avoir avec l'islam, c'est par le biais de la parole d'Allah et par le biais de la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Bien inconscient, ce musulman qui se dit pratiquant, qui se croit être pieux, s'il fait ses 5 salades, il lit le Coran, il fait son tahajjud peut-être, mais qui ne connaît rien de ce qu'Allah a dit dans le Coran et qui ne connaît pas du tout ce que le prophète a dit. C'est-à-dire qu'il lui manque les bases. Il lui manque, c'est comme vous avez une voiture, vous avez mis de l'essence. L'essence, allez, c'est une métaphore. L'essence, c'est les ibadat. Mais dans votre moteur, vous n'avez pas mis d'huile. On a des mécaniciens là. Et vous n'avez pas mis d'eau dans le... Comment ça? D'eau dans le truc là pour refroidir le moteur. Gros problème. Vous allez peut-être rouler un instant. Mais le moteur, il y aura une surchauffe, il y aura des problèmes. Il n'y a pas d'huile, peut-être le moteur même faudra changer. On a nos ibadat. Mais si on n'est pas alimenté par la lumière du Coran et par la lumière qui émane des hadiths, notre progression de la religion ne sera pas nette. On peut avancer, je ne dis pas qu'on sera jahil, non, on va peut-être avancer, mais nos pas ne seront pas aussi sûrs que si on a ces deux lumières. Taraktu fikum ma in tamassaktum bihi lan tadhillu abada kitab Allahi wa sunnati. Je vous ai laissé deux choses. Le prophète dit hadith authentique. Si vous vous y accrochez, jamais vous ne serez égaré. Et lorsque le prophète dit lan tadhillu abada, abada c'est ila qiyam as-sa'ah, jusqu'à la fin du monde, jusqu'à même que Dajjal viendra, si on est dans ce monde, qu'Allah nous protège, si on a le Coran et la Sunna, on ne sera pas égaré. Parce qu'on saura quelle est la façon d'aborder cette personne, etc. Donc l'importance de comprendre le Coran et dans un second temps de comprendre les paroles du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Introduction de 8 minutes, hein, on doit respecter l'heure, 9h30, on doit terminer pour que les personnes puissent fermer la masjid, inshallah. Alors donc, on avait, si je ne me trompe pas, oui, on avait terminé le surat Wallayli Iza Yarsha avant les vacances, si c'est bien ça, ou alors Wal-Fajri plutôt. Wal-Fajri, on avait terminé avant les vacances et on n'avait pas commencé Hal Ataka Hadith Al-Rashiya, ou alors on avait fait une petite introduction, mais comme ça remonte à un mois et demi, hein, on va reprendre depuis le début, c'est beaucoup mieux. C'est un surat exceptionnel, comme tous les surats du Coran d'ailleurs. Que ce soit le plus petit, Daja, Nasrullah al-Fath, Inna Atainaka al-Kawthar wa al-Ikhlas, ou les plus grands surats comme Al-Baqarah, tous les surats sont magiques, tous les surats sont exceptionnels. Ce surat Al-Rashiya qui veut dire l'enveloppante, on va voir pourquoi c'est appelé l'enveloppante, c'est en rapport, parce que ça décrit le Qiyamah, ça on verra. Dans ce surat, on peut distinguer trois parties. On peut distinguer trois parties. Première partie, lorsqu'Allah Azza wa Jal annonce la venue du Qiyamah. Pas la venue du Qiyamah, annonce le jugement, le jour des comptes, premièrement. Il y a également cette partie où Allah Azza wa Jal explique quelles seront les deux catégories de personnes. les gens qui étaient dans le mauvais chemin et ensuite les gens qui étaient dans le droit chemin. Troisième partie, Allah Ta'ala explique quelle sera la destinée de chacune de ces deux catégories de personnes. Ça fait trois. Et quatrième partie, il y en a pas trois, il y en a quatre. Quatrième partie, Allah Ta'ala invite, ou Allah Ta'ala reproche à ceux qui ne croyaient pas à ce jour précis qui est décrit là, Allah Ta'ala reproche à ces gens de ne pas avoir observé la création d'Allah et de ne pas avoir vu la grandeur, l'existence d'Allah, la puissance et la grandeur d'Allah par le biais de sa création. Et enfin, Allah Ta'ala termine en adressant un message au prophète sallallahu alayhi wa sallam, ce qui nous ramène à cinq parties. Hal ataka hadithul ghashiya, t'est-il parvenu le récit de l'enveloppante? Dans ce premier verset, Allah Azza wa Jal s'adresse au prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais le message est également pour toutes les personnes, pour tous les musulmans, tous ceux qui lisent ce livre. Allah Ta'ala rappelle l'existence du jour du Qiyamah. Al-Rashiya, qui veut dire l'enveloppante, ça fait partie des multiples noms du Qiyamah. Et on rappelle la règle de base, lorsque un mot, ou lorsqu'une chose ou une personne a plusieurs noms, cela prouve l'importance de ce fait. Donc le Qiyamah a plusieurs noms. Il a été qualifié de différentes manières dans différents versets du Coran, et là, dans ce surat, il est appelé Al-Rashiya. Cette question, t'est-il parvenu le récit de l'enveloppante, c'est une question qui a pour but d'interpeller et qui a pour but de montrer l'importance de cet événement, de ce moment qui sera le jour des comptes, le jour où chaque être humain sera présenté à Allah subhanahu wa ta'ala. Le nom le plus connu, c'est Yawm al-Qiyamah. Et dans le Coran, Allah ta'ala dit « Ya ayyuhannas uttaqu rabbakum inna zalzalat as-sa'ati shay'un 'azim » dans le surat Al-Hajj, Allah ta'ala décrit ce jour, comment les gens seront ébahis en voyant la mise en place du tribunal d'Allah, le jour des comptes qui commence, le qiyama qui se met en place. يَوْمَ تَرَوْنَهَا تَذْهَلُ كُلُّ مُرْضِعَةٍ عَمَّا أَرْضَعَتْ وَتَضَعُ كُلُّ ذَاتِ حَمْلٍ حَمْلَهَا. Et ce qui nous intéresse, وَتَرَى النَّاسَ سُكَارَا وَمَا هُمْ بِسُكَارَا وَلَكِنَّ عَذَابَ اللَّهِ شَدِيدٌ. Hein, Allah Ta'ala dit trois choses, et la troisième chose, c'est ce qui m'intéresse, c'est qu'Allah Ta'ala dit que ce jour-là, on va voir les gens comme si qu'ils sont ivres, sous, comme si qu'ils ont bu, ils ne comprennent plus rien. Mais ils ne sont pas sous, ils ne sont pas ivres. C'est la punition d'Allah qui est dure, qui est sévère. Mes chers frères, croire au jugement dernier fait partie des six branches de la foi. Croire en Allah, ses livres, les prophètes, les anges, le jour du jugement et le destin. Si une personne ne croit pas à un des six piliers de la foi, cette personne n'a pas iman. Ça, c'est clair. Ça, on l'enseigne aux enfants depuis leur plus jeune âge à la madrasa. Maintenant, il faut comprendre qu'il y a une relation entre chacun de ces six piliers. Cette relation, on pourra l'expliquer plus tard. Ce qui nous intéresse, c'est précisément la croyance sur l'au-delà. C'est quelque chose, on a dit, ça fait partie des piliers de la foi, mais c'est l'objectif et c'est ce qui fait vivre le musulman. Le fait de savoir qu'après cette vie, il y a une autre vie. Le fait de savoir que lorsque je ferme les yeux, lorsque mon âme quitte mon corps, ben c'est tout le reste du temps qui reste. Ce n'est pas que j'ai vécu et puis il reste l'au-delà. Non, ce n'est même pas un poisson de ma vie qui est passé sur ce dunya et il me reste l'éternité. C'est-à-dire ce que j'ai vécu par rapport à l'au-delà, c'est une poussière, c'est un grain de sable dans un désert. Mais en même temps, c'est le moment le plus important parce que c'est dans ce laps de temps de 60-70 ans que je choisis mon destin, que je choisis le chemin que je vais prendre pour l'éternité. Si une personne pratique mais ne croit pas en l'au-delà, on a dit que la personne n'est pas musulmane, mais c'est une pratique qui n'a aucun intérêt. Parce que quand je fais une bonne action, c'est quoi mon objectif? Je recherche le contentement d'Allah, oui ou non? Oui, je recherche le contentement d'Allah. Comment est-ce que se manifestera le contentement d'Allah? En obtenant des richesses de ce monde? Non. Allah ne récompense pas par les richesses de ce monde. Je l'ai expliqué dans d'autres sourates avant que ce n'est pas une preuve qu'Allah aime quelqu'un lorsqu'Allah lui donne des bienfaits. Bien au contraire, ça peut être le contraire. Allah l'éprouve par les bienfaits et il aura beaucoup de comptes à rendre le jour de la résurrection alors que les pauvres entreront au Jannat avec beaucoup plus de facilité. Alors comment est-ce que je vais voir le contentement d'Allah? Ce n'est pas dans ma vie de ce dunya, c'est dans le delà. Si je crois à la résurrection, au jour où je vais me présenter auprès d'Allah, je vais être récompensé pour les bonnes actions, et qu'il y a un paradis pour ceux qui font les bonnes actions, là, ces actions ont un sens. Et lorsque je m'abstiens, lorsque je m'éloigne d'un péché, lorsqu'arrivé le samedi, j'ai mes amis au lycée ou à l'université qui ne sont pas musulmans et qui m'invitent à une soirée, à la villa, au safari ou je ne sais quel endroit, me dit viens, il y a une soirée étudiant, il y a une soirée telle chose, je n'y vais pas. Risque à ce qu'ils me considèrent comme rétro, archaïque ou préhistorique ou autre chose, comme quelqu'un de coincé, toi tu t'amuses pas, tu es pas comme nous, etc., etc. Peu importe. Je m'abstiens, je m'éloigne de ce péché. Mais si je m'éloigne de ce péché, c'est parce que je sais que, en m'éloignant de cela, je m'éloigne de l'enfer, je m'éloigne de la malédiction, du mécontentement d'Allah, et je me protège des châtiments dans la tombe et dans l'au-delà. C'est ça qui fait vivre le musulman. Et lorsque dans certains moments de notre vie, nous avons tous des faiblesses, il y a des moments où le iman atteint son paroxysme plus haut degré, de Ramadan par exemple, alhamdoulilah, mais il y a des moments aussi où on a des faiblesses, on a des chutes, comme il y en a qui ont des chutes de tension, ben on a des chutes de foi, de iman. Ça c'est normal ça, al-iman yazid wa yanqus. L'iman augmente ou il diminue. Ben quand on a une petite faiblesse dans la foi et que on a du mal à pratiquer une action ou alors on a du mal à continuer à rester éloigné d'un haram dont on a envie, ben qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut se dire qu'il faut se fixer l'objectif. Que moi, je fais ça ou je ne fais pas ça, c'est pas juste parce que je suis musulman, donc ça c'est autorisé, c'est interdit. Non, c'est parce qu'au-delà de ça, il y a un jour où tout ce que je fais sera sanctionné. Soit je vais être récompensé, soit je vais être puni. Parce qu'il y a quelque chose après cette vie. Le kafir, celui qui n'a pas iman, à dunya, c'est le mu'min wa jannatul lil kafir. C'est un paradis pour celui qui n'a pas la foi. Parce que pour lui, après la mort, il n'y a rien. Quand je meurs, ben mon corps pourrit, mon corps devient poussière, c'est fini. Donc autant s'amuser maintenant. Fais péter au maximum. On va essayer de jouir de tout ce qui existe. Parce qu'arrivé à un âge, je vais être trop vieux, je ne pourrai plus le faire. Et quand je serai mort, ce sera fini. Donc il faut faire le maximum. Je mange tout, je bois tout, je m'amuse, je fume, je fais tout ce qui existe. Je fais le zina, je fais tout. Il faut profiter de cette vie. Parce que lui, il ne croit pas à une vie après la mort. La différence, c'est que moi, je sais qu'après la mort, tout commence. Ça doit être le point de rattache du musulman. Si nous n'arrivons pas à faire la relation entre mes actions, ma vie maintenant, et l'au-delà, ma pratique ne sera pas forte. Et ma motivation risque de faiblir. Je répète encore une fois, ça c'est une règle importante. Ce n'est pas uniquement parce que je suis musulman que je ne mange pas de porc et que je ne bois pas d'alcool. On a dit, les Arabes, on ne mange pas porc, on ne boit pas d'alcool. Parce que mes Arabes vous viennent dire, ah ben les vrais ou les Arabes. C'est pas ça. Au-delà de ça, c'est pas juste un état. Je suis musulman, je ne bois pas. Je suis un musulman, je ne sors pas avec les filles. Je suis musulman, j'obéis mes parents. Je suis musulman, je fais namaz. C'est un peu philosophique ça, mais à nous de bien comprendre. C'est pas juste parce que je suis un musulman. Non, je suis un musulman, d'accord, ça c'est une identité. Mais si je ne fais pas ça et je suis obligé de faire ça, c'est parce qu'il y a quelqu'un qui me le demande et il y a quelqu'un auprès de qui j'ai des comptes à rendre. C'est ça, c'est important. Malheureusement, de nos jours, nous avons une pratique qui est devenue routinière, une pratique qui est devenue plus un rituel que du culte. Ça, c'est un point extrêmement important. Beaucoup de musulmans ne comprennent pas le sens profond de la foi. Beaucoup de musulmans font la prière sans comprendre c'est quoi. Je ne parle pas des masras, tout le monde sait les masras, tout le monde le connaît ça. On n'a pas besoin d'apprendre les masras, depuis qu'on est enfant, on nous apprend les masras. Mais beaucoup de gens le font comme si ça faisait partie de notre culture. C'est pas une culture ça, c'est un namaz. C'est pas des traditions, c'est pas une habitude que nos parents nous ont donnée. C'est du culte, c'est de l'adoration d'Allah, c'est du ibadat. Si je prends conscience que quand je pose mon front sur la moquette, je ne fais pas que répéter ce que papa m'a appris ou Moïssa m'a appris. Non, je suis en train de me prosterner, d'adorer le créateur des cieux, de l'univers, le créateur de toutes les makhlouqat. Et que c'est auprès de lui que je retourne. Ça, c'est ça le sens profond des ibadat. Que le musulman comprenne qu'il y a un jour qui s'appelle le Qiyama, le delà, où nous verrons la différence entre le vrai et le faux.
celui qui a passé sa vie dans les jouissances et celui qui a passé sa vie dans l'adoration d'Allah. Est-ce qu'ils auront le même sort, Allah ou Allah? C'est là que se manifestera là la vérité. On va faire encore deux minutes juste pour annoncer les deux catégories. Et puis également, le fait de croire au jour du jugement dernier, ça vous donne l'espoir. Vous savez, dans ce dunya, est-ce qu'il y a la justice? Jamais. Il n'y a pas de justice de ce dunya. À tous les niveaux, on ne va pas entrer dans les détails, à tous les niveaux, quelqu'un, un pauvre, quelqu'un qui n'a pas de renommée, qu'on ne connaît pas, il peut faire un petit délit, il sera mis en prison. Un gros oiseau, ou quelqu'un bien placé, il pourra faire une grosse faute, quelque chose qui peut lui causer, qui peut lui amener des années en prison. Mais parce que c'est monsieur un tel, ou parce qu'il a des relations avec un tel, ou parce qu'il a un tel poste, ben on va fermer les yeux dessus. Circonstances atténuantes, ou alors le magistrat n'est pas compétent, ou je ne sais quoi, je ne sais pas, je dis n'importe quoi. Hein. Mais on sait, on a constaté ça de ce dunya, il n'y a pas de justice. Et ça a toujours été comme ça. Depuis qu'il y a des hommes sur la terre, il y a l'injustice. Depuis qu'il y a le shirk, que le couple, il y a l'injustice jusqu'au qiyam. Et le fait de savoir qu'il y aura un jour la justice d'Allah, ça nous donne de l'espoir. Lorsqu'on se fait insulter, on se fait agresser, hein, lorsque nous subissons des préjudices par rapport à notre religion ou autre chose, et que nous voyons qu'on ne peut pas rétablir la vérité, on se dit que de toute façon, Allah Ta'ala jugera ses créatures un jour. Et plus j'ai été opprimé, plus je serai élevé le jour de Qiyamah. Tout ça donne aux musulmans l'espoir. L'espoir, pas un espoir invisible, c'est un espoir en quelque chose de vrai, de véritable, une promesse d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, le deuxième verset, « Wujuhun yawma idhin khashi'a amilatun nasiba tasla naran hamiya tusqa min aynin aniya laysa lahum ta'amun illa min dari'in la yusminu wa la yughni min ju'a. » Dans cette deuxième partie, Allah subhanahu wa ta'ala annonce une des deux catégories de personnes, parce qu'il n'y aura pas 5 ans, il y aura 2. Soit on est dans le droit chemin, soit on est dans le mauvais chemin. Il n'y a pas d'autre solution. Soit j'ai iman, soit je n'ai pas iman. Basse. Il n'y a pas une solution intermédiaire. Ce jour-là, il y aura des visages humiliés. Qui seront les personnes humiliées le jour de Qiyamah? Est-ce que ce seront les mêmes personnes qui étaient humiliées dans ce dunya? C'est-à-dire le pauvre, celui qui vit dans des petits quartiers, celui qui n'a pas de reconnaissance dans la société, qui était humilié dans ce monde. Est-ce que les critères d'honneur et de déshonneur dans l'au-delà sont les mêmes que les critères d'honneur et de déshonneur de ce monde? Non. Ici, si vous avez de l'argent, vous appartenez à une grande famille, vous avez telle chose, si vous avez une belle voiture, un bon poste, on vous respecte. Même si dans le fond vous êtes une vermine, vous êtes une ordure. Mais si vous avez, excusez-moi, une belle gueule, excusez-moi, passez-moi l'expression, vous êtes issu de telle famille, vous avez tel poste, vous avez une grosse voiture, vous avez tel privilège, monsieur, on vous respecte. Même si dans le fond vous êtes quelqu'un de profondément ignoble. Et si vous êtes pauvre, vous n'avez pas le faciès qu'il faut, etc., etc., ben lui c'est monsieur tout le monde. Monsieur tout le monde, ça veut dire n'importe qui. Ça veut dire sans intérêt, tu existes, tant mieux, tu n'existes pas, ça ne cause préjudice à personne. Ces critères sont les critères de ce dunya. Mais le jour de la résurrection, mes chers frères, on peut être d'origine modeste, pauvre, et comme on l'a dit tout à l'heure, mais avec le iman de le cœur. La foi qui illumine le cœur, et c'est uniquement ça qui nous distinguera le jour du Qiyama. Alors, ces visages humiliés, ce sont qui? Ce sont les gens qui n'ont pas cru en Allah, qui n'ont pas cru au prophète Mohammed Mustafa sallallahu alayhi wa sallam. وَتَرَاهُمْ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا خَاشِعِينَ مِنَ الذُّلِّ يَنْظُرُونَ مِنْ طَرْفٍ خَفِيٍّ. Et tu les verras exposés devant l'enfer, confondus dans l'avilissement et regardant d'un œil furtif. De nos jours, dans ce dunya, nous voyons des gens qui insultent notre religion. Il y a des gens qui ont dit beaucoup de choses. Il y a des gens qui se sentent supérieurs par rapport à leur culture, leur économie, je ne sais quoi. Ils sentent vraiment qu'ils sont les maîtres de ce dunya. Mais le jour du Qiyama, c'est autre chose. Ce n'est pas vos richesses, ce n'est pas tout ça. C'est uniquement le iman qui avait dans le cœur. Alors les oppresseurs seront les personnes humiliées le jour du Qiyama. On a 24 minutes, on fait encore 6 minutes, Inch'Allah. « Amilatun nasiba » préoccupés, harassés. Préoccupés par quoi? Préoccupés par tout ce qui va arriver, parce que le jour de Qiyamah, les gens vont prendre conscience que ce qui a été révélé, c'était la vérité. Les kuffars, les mushrikines, ils vont comprendre qu'est-ce qui est en train de se passer. Nasiba, harassé par quoi? Ben, la résurrection, il y a 40 années pour que les êtres humains restent en position debout, avec le soleil à cette hauteur, jusqu'à ce qu'Allah Ta'ala décide de commencer les comptes. Avec toutes les difficultés qu'il y a avec les gens qui vont transpirer en fonction de la quantité de péchés qu'ils ont accomplis. Tandis que les mu'minines, les pieux serviteurs d'Allah, seront, inshallah, à l'ombre du trône d'Allah, ou au moins, ils seront préservés de ces difficultés. Et c'est là déjà un début de azab pour les mushrikines, pour les kuffars, pour ceux qui n'ont pas la foi. Parce que ces gens-là, à un tel point, ils auront souffert de ces années d'attente, de cette étape qu'on appelle la résurrection, qui précédera l'étape qu'on appelle al-hisab, les comptes, qu'après un certain nombre d'années, certains kuffars demanderont « Allahumma arihni walau ila nar »« Oh Allah, aie pitié de nous, même s'il faut nous envoyer en enfer. » Tellement ils seront épuisés, ils ne pourront plus attendre pour eux. Vaut mieux que le jugement commence, qu'ils soient précipités dans le jahannam, qu'ils restent debout, mais ils ne savent pas qu'est-ce qui va venir après qu'Allah nous protège. « Tasla naran hamia » Ils brûleront dans un feu ardent. Et lorsqu'on parle de feu, et là on va voir à travers tous les exemples du sourat, il y a des mots qui reviennent, qui sont des mots utilisés dans le lexique de l'être humain, de quelles que soient les langues. Mais ce mot a une toute autre connotation lorsque on le fait entrer dans le domaine du raïd. Le mot an-nar, le feu, dans ce dunya, on sait c'est quoi, on imagine. Mais quand je dis le mot nar, et qu'on passe en mode akhirat, en mode raïd, la foi en l'invisible de l'autre monde, cela prend une toute autre connotation. Ce feu du dunya, c'est, et par rapport au feu du akhirat, بِتِسْعَةِ وَسِتِينَ جُزْءًا, c'est 1/70 du feu de l'au-delà, du feu du Jahannam, un feu qui a été attisé, préparé pendant des, je ne sais, je n'ai pas le hadith sous les yeux, combien d'années, hein, mille ans, أَلْفَ عَامٍ حَتَّ أَحْمَرَّتْ, ce feu a été préparé pendant 1000 ans jusqu'à ce qu'il devienne rouge, وَأَلْفَ عَامٍ حَتَّ بِيَبَّتْ, ensuite 1000 ans encore jusqu'à ce que ce feu devienne blanc. Et c'est là qu'on voit la différence entre le feu du dunya et l'akhir, un feu blanc, c'est inimaginable. Wa alfa amin hatta swaddat, et 1000 années encore pour que ce feu devienne noir. Et là, on voit ce qu'on appelle al-fariq, hein, la différence, le fossé qu'il y a entre les termes que nous utilisons dans notre lexique du dunya et les mots qui sont utilisés pour le lexique du akhirat. Un feu ardent, un feu qui peut être coulant, mais qui est de couleur noire, ça c'est le feu du akhirat. On va s'arrêter à là, inshallah. La prochaine fois, on expliquera tous min aynin aniya, quels seront les supplices de ces gens du Jahannam, sans rentrer dans plus de détails que ce qui est cité dans le sourate, parce qu'on ne va pas parler de tout le Jahannam, parce que la deuxième partie nous intéresse lorsqu'on décrit la situation des gens qui seront dans le droit chemin. Qu'Allah Ta'ala nous accepte, nous donne la possibilité de comprendre les quelques paroles qu'on a dit en introduction pour rappeler quelle est l'importance du Coran et de la Sunna, et de l'importance de comprendre les versets, le sens de la parole qu'Allah Ta'ala nous a donnée par l'intermédiaire du prophète Muhammad Mustafa sallallahu alayhi wa sallam, et qu'Allah nous donne la possibilité de comprendre l'importance du jour de l'au-delà, qu'Allah nous donne la véritable foi. Je ne veux pas être un musulman qui pratique la religion comme un automate, comme un robot qui fait parce que papa a fait, grand-père a fait et Moulissa me l'a appris. Je veux être un musulman, et je veux que mes enfants soient des musulmans qui comprennent qu'est-ce qu'ils font, qui savent où ils vont et qui savent pourquoi je fais namaz, pourquoi je jeûne, pourquoi je donne zakat, pourquoi, et qu'est-ce qu'Allah Ta'ala attend de moi et qu'est-ce qu'Allah Ta'ala me donnera pour cela. Et cela fera naître le véritable iman, cette lumière qui me guidera vers le droit chemin. Qu'Allah nous accepte et nous donne la compréhension de ces choses. On m'a tawfiq illa billah. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wa salamun ala al mursalin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Et puis, parenthèse, nous reprenons le programme également le mardi au centre-ville de Sanny, un ancien programme qu'on avait fait il y a peut-être 4 ans à Montreuil, concernant les grands signes de Qiyamah. Et donc là, on a un tawfiq de reprendre. On avait fait les petits signes de Qiyama en 6 ou 7 mois. Et là, à partir de ce mardi, on avait fait une séance déjà. On va reprendre sur la venue de Imam al-Mahdi. Donc ce sera un mardi sur deux, c'est-à-dire ce mardi-là, à la grande mosquée de Nour al-Islam. Jazakumullah khair. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wa salamun ala al-mursalin. Alhamdulillahi rabbil alamin.